Le journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
Le Covid flambe aux Antilles, territoire où la vaccination reste très faible, situation dramatique. Des enfants en réanimation, des hôpitaux saturés, des soignants épuisés. Reportage au CHU de Fort-de-France dès le début du journal en Martinique. On en parle aussi avec nos invités à 8h20 dans le grand entretien. Avec nous, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, sur place en Guadeloupe depuis mardi. Le professeur Serge Romana, signataire avec une trentaine de médecins et de scientifiques ultramarins d'une lettre ouverte pour inciter à la vaccination. Et puis Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Appelez-nous, chers auditeurs, on vous attend. 01 45 24 7000, le standard est ouvert. Les autres titres, Laurence?
Vacciner, 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 un mantra bien difficile à suivre pendant la période estivale. Les centres qui sont encore ouverts pendant les vacances manquent de bras pour piquer. La politique avec cette primaire populaire, un projet citoyen pour réunir la gauche et les écologistes en vue de 2022. Les partis ne sont pas très convaincus. La Kabylie, au nord de l'Algérie, dépassée par les incendies, la France envoie du renfort. Un film anti-IVG diffusé dimanche sur la chaîne C8 du groupe Bolloré. Cette programmation passe très mal auprès du planning familial. Et puis cette prise incroyable au large de l'île de Bréa. Un jeune pêcheur a sorti tout seul et en toute légalité un thon rouge de 121 kilos.
Elle est magistrale à l'écran dans le dernier film de Daniel Arbide, Passion simple, sorti hier au ciné, adapté du chef-d'œuvre d'Annie Ernaux. Du corps au cœur, le désir obsessionnel pour un homme, la passion qui dévore jusqu'à en perdre la raison. Laetitia Doche au micro Inter à 7h45.
France Inter.
Confinement strict en Martinique et en Guadeloupe, passe sanitaire étendu à certains centres commerciaux. L'exécutif a donc procédé à un nouveau tour de vis pour freiner l'épidémie de Covid-19 et empêcher la fermeture du pays. Première priorité, les Antilles, où ce confinement sera appliqué dès demain en Guadeloupe. Il est déjà en vigueur en Martinique. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Faustine, vous avez passé la journée d'hier au CHU de Fort-de-France. Tous les médecins s'accordent à le dire, c'est du jamais vu. Malgré les renforts arrivés de métropole, l'hôpital est en train de craquer.
Et on s'en aperçoit effectivement d'abord aux urgences quand l'ambulance arrive.
C'est du Covid.
65 ans. Vous avez du diabète, madame? Vous êtes vaccinée?
Non.
Ok. On la met sous la tente. Hein.
La tente sur le parking, c'est la première étape. Un moyen de gagner un petit peu d'espace avant d'entrer dans le bâtiment. Là, il y a des brancards partout, près de 50 malades, tous Covid. Si leur état se dégrade, ils devraient aller en réanimation. Ils devraient, car la place manque, se désole le chef du service, le docteur Cyril Chabatier.
Parce que le bon terme, c'est submergé. À l'heure actuelle, il y a 45 lits de réanimation qui ont été ouverts sur le CHU, plus 10 lits par l'armée. Et malgré tout cela, il y a plus d'une centaine de patients dans les étages qui relèveraient d'un service de réanimation et que nous ne sommes pas en mesure de prendre à l'heure actuelle. On est en train de savoir, entre des personnes de 30 ans ou 20 ans, laquelle va bénéficier en priorité de l'accès à la réanimation. Et en gros, on va prendre la plus grave.
Un choix, un tri des patients, on en est là, confirme Régine Minger, elle est cadre de santé. Et quand on lui demande ce qui est le plus dur, elle répond.
Du point de vue plus humain, c'est aussi l'âge maintenant des patients que l'on a dans les lits. Le plus jeune patient qu'on ait eu à prendre en soin avait 19 ans, les décès aussi.
La semaine dernière, deux hommes, 31 et 33 ans, sont morts ici du Covid en réanimation.
Merci Faustine Calmel. Et c'est dans cet hôpital au CHU de Fort-de-France que doivent se rendre donc aujourd'hui les ministres de la Santé des Outre-mer, Olivier Véran et Sébastien Lecornu. Quant à la vaccination, le gouvernement l'a annoncé hier, dès septembre, les personnes les plus fragiles à partir de 80 ans seront appelées à se faire vacciner une troisième fois. À ce jour, un peu plus de 45 millions de Français ont reçu au moins une dose. Objectif du gouvernement, 50 millions de primo-vaccinés à la fin du mois. Mais pendant la période estivale, plusieurs centres sont fermés et c'est un véritable défi à relever pour les soignants. Ce ne sont pas les vaccins qui manquent, mais le personnel fatigué ou en vacances. Une fois de plus, Marion Ferrer, les soignants se serrent les coudes pour faire face. C'est votre reportage au vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.
À quel bras je vous ferai le vaccin?
Le gauche.
Le gauche, vous êtes droitière.
Pas une minute de répit pour Nathalie. Cette infirmière de 53 ans multiplie les injections. Pourtant, elle est officiellement en vacances.
J'ai commencé au moment du confinement, puisque ma structure a fermé, comme toutes, début avril. Quand ça a réouvert, j'ai continué de pouvoir faire des vacations sur les nocturnes, du vendredi, des week-ends, et là, sur le début de mes vacances. Et il le faut, enfin, je veux dire, c'est ma profession, on doit œuvrer contre cette crise, je dirais. donc il n'y a pas de problème.
Quelques boxes plus loin se trouve Anthony, lui aussi est infirmier, et ses congés, il les a tout simplement repoussés.
Je fais des journées de 12 heures en milieu hospitalier, et sur mes jours de repos, je fais donc de la vaccination le matin, et l'après-midi, j'essaie de faire des PCR. Pas trop de vacances, non. Mais je pense que c'est nécessaire pour tout le monde.
Dans la fourmilière du vaccinodrome, 600 soignants se relaient. Mais avec l'été, composer les équipes est devenu un casse-tête. Il a fallu compresser le planning sur 5 jours. Éric-Alain Junès est le médecin référent du centre.
On a modifié et du coup, on est effectivement on est en flux tendu. Là. Je ne parlerai pas de fatigue, je parlerai d'épuisement. D'autant plus qu'on n'est pas encore au bout aujourd'hui. Hein. Donc il y a encore quelques millions de personnes à vacciner.
Et ces plannings, il faudra à nouveau les renforcer au mois de septembre. Les soignants tentent d'organiser l'éventuelle troisième dose.
Marion Ferrer. Réaliste ou utopiste, des citoyens de gauche multiplient les initiatives pour tenter de dégager un ou une candidate commune pour la présidentielle l'année prochaine.
Ils sont lassés des éternelles divisions à gauche ou du duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de cette présidentielle de 2022. Ils sont jeunes, ils sont militants, encartés ou pas. Alors, ils organisent une primaire populaire, mais pas sûr, Laurence Perron, que les partis de gauche et les écologistes soient convaincus.
Parmi les pionniers, on trouve Nouvelle Ère, un mouvement fondé par Olivier Demours, étudiant, qui entend faire revenir aux urnes les électeurs boudeurs des territoires ruraux et des villes moyennes.
Le problème aujourd'hui, le manque de sens dans notre démocratie, c'est un problème auquel nous, on veut répondre en mobilisant les citoyennes et les citoyens qui votent contestataires.
Il n'est pas question de casting ici, contrairement à l'initiative des jeunes de 2022 ou jamais. Ils ont lancé sur Internet une primaire populaire. Et là, on choisit en toute liberté le nom de son ou de sa candidate commune pour 2022. Camille Marguin, porte-parole.
Donc nous, on a jusqu'au 11 octobre pour convaincre les personnalités qui apparaissent.
Vous allez avoir du mal avec Christiane Taubira.
On va peut-être avoir du mal avec Christiane Taubira, entre autres. Après, plus on sera nombreux et plus la balance va pencher du côté de la candidature.
Les partis de gauche unanimement font la moue. Insoumis et communistes ont choisi d'aller parler au peuple en direct avec leur caravane cet été plutôt que de mobiliser leurs militants pour faire monter leur score sur le site d'une primaire virtuelle. Fabien Roussel, le candidat communiste.
C'est pour moi normal qu'il y ait plusieurs candidats avec des projets différents et c'est aux Français de choisir.
Les écologistes sont sur le même pied, ils ont leur propre primaire et même Benoît Hamon, pourtant porté par les votes des internautes, a demandé à ce que son nom soit retiré. Je ne suis pas candidat et quand on voit que Mélenchon est derrière le prêtre économiste Gaël Giraud, j'ai comme un doute.
Laurence Perron, des forêts entières brûlées, des villages encerclés par les flammes, 70 morts au moins pour la plupart des habitants de Tizi Ouzou. La Kabylie au nord de l'Algérie est dépassée par les incendies. La France va envoyer du renfort, deux canadaires, deux bombardiers d'eau et un avion de reconnaissance. Le point avec Nathanaël Charbonnier.
On parle déjà des pires incendies de l'histoire de l'Algérie et les images qui circulent laissent imaginer en effet l'horreur de la situation. Maisons, animaux, tout est ravagé. Une situation d'autant plus dramatique que la canicule sévit avec des températures dépassant les 45 degrés. Très vite, les autorités ont tenté d'expliquer qu'une partie de ces feux était due à des actes malveillants. La télévision validant l'explication en annonçant l'arrestation de plusieurs pyromanes. Cela dit, des questions se posent sur le nombre de victimes, avec des polémiques qui pourraient voir le jour, sur les moyens déployés et les raisons qui pourraient expliquer un tel drame. En attendant, c'est la solidarité qui opère, solidarité en Algérie où la population se mobilise pour venir en aide aux sinistrés, solidarité également de la diaspora et des ONG qui rassemblent matériel et vivres pour ceux qui ont tout perdu, solidarité internationale avec l'aide notamment de la France.
Nathanaël Charbonnier, 45 degrés en Algérie, 48,8 en Sicile dans la région de Syracuse où là aussi des milliers d'hectares sont partis en fumée à cause d'une vague de chaleur portée par l'anticyclone, le bien nommé Lucifer. En Grèce, les 900 pompiers grecs et étrangers prennent lentement le contrôle du feu qui ravage l'île de Bé depuis 9 jours. Et enfin en France, attention, des températures très élevées sont prévues dans le sud-est ces prochains jours. Les Alpes de Haute-Provence et la Drôme sont placées en vigilance orange canicule.
La chaîne de télé C8 n'en est plus à une polémique près.
Elle a choisi le jour férié du 15 août, jour ô combien important pour les catholiques, pour diffuser un film Unplanned. Il s'agit de l'histoire vraie d'une femme devenue militante anti-avortement. Unplanned a connu un vif succès aux États-Unis lors de sa sortie en 2019 et pour cause, il avait été plébiscité par le bras droit de Donald Trump, Mike Pence. Or, si le film prétend se fonder sur l'histoire vraie d'Abby Johnson, les faits racontent racontées sont pourtant remises en cause par la majorité de la communauté scientifique. En France, le planning familial s'alarme de la diffusion de ce film sur la chaîne de Vincent Bolloré dimanche prochain à une heure de grande écoute. Alexis de Meyer.
Pendant près de 2 heures, Unplanned retrace l'histoire vraie d'Abby Johnson, cette Texane, directrice d'un centre de planning familial, devenue une passionnaria anti-avortement. C'est donc ce film financé par une boîte de production évangélique qui va être diffusé en prime time. S'ils choisissent C8 lundi prochain, les téléspectateurs français pourront notamment découvrir cette scène choc et totalement irréaliste d'un fœtus de 13 semaines qui se débat pour échapper à une IVG.
Je l'ai vu. C'était comme s'il se tordait et se battait pour survivre. J'ai été la complice de plus de 22 000 avortements. J'arrive même pas à le concevoir.
Depuis l'annonce de cette programmation, plusieurs voix se sont élevées pour demander au CSA d'intervenir, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Véronique Seyé du planning familial dénonce pour sa part un film de propagande.
Pour moi, c'est un film qui est manipulateur parce qu'il s'appuie sur une histoire vraie, mais en même temps, il y a des contre-vérités scientifiques. Et donc, je pense que si on diffuse un film de ce type-là, il faut absolument mettre en garde les téléspectateurs sur le contexte dans lequel ce film a été effectué. Comment il a été fait, pourquoi il a été fait et par qui il a été fait.
Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre la direction de C8 sans succès.
Alexis de Meyer, avec l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, on en oublierait presque que la planète foot continue de tourner partout ailleurs. Hier à Belfast, c'était le grand jour de la Super Coupe d'Europe. Le match a permis à Chelsea et à son entraîneur Thomas Tuchel de confirmer son actuelle domination sur le continent. Après la Ligue des Champions, Chelsea a en effet décroché ce nouveau trophée face à Villarreal, victoire des Londoniens au tir au but 6-5. Le jeune homme et la mère, ce pêcheur professionnel, a pêché tout seul un thon rouge de 121 kilos au large de l'île de Bréa dans les Côtes d'Armor. Son combat aura duré seulement 45 minutes. Le récit de Johan Moiseau.
Kenan Rioux est à bord de son petit bateau semi-rigide tout près de Bréa. Il vient de lancer sa ligne quand tout à coup, il sent que ça commence à tirer très fort.
C'était dur. Et après, c'était long. 45 minutes, juste pour le remonter.
Tout seul?
Ouais. Mais normalement, on est deux quand on fait les tons.
Et vous en remontez souvent des comme ça?
La semaine dernière, on a fait deux. Un de 58 kilos et un de 72 kilos.
Cela fait 4 ans environ que le thon rouge est de retour dans le secteur. Des spécimens de 500 kilos ont déjà été pêchés ici et ça commence à se savoir. On voit des pêcheurs professionnels locaux et des passionnés. Régis Kellec et Gilles Alanic travaillent aux affaires maritimes.
En pêche de loisirs, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Des Finistériens, des Morbihanais, Loire-Atlantique.
Même de beaucoup plus loin, espagnols et japonais. Ouais.
Certains sont très bien équipés.
C'est du matériel très spécifique. Hein. Vu que les poissons font minimum 30 kilos, peuvent aller jusqu'à 200 kilos et plus, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pas avec une canne à barre ou un maquereau qu'on peut prétendre pêcher malencontreusement un thon rouge.
Il faut parfois plusieurs heures pour sortir un thon de l'eau. Une pêche qui est très réglementée. Au début du siècle dernier, des adeptes se retrouvaient déjà dans le secteur. Le célèbre écrivain et journaliste américain Ernest Hemingway venait pêcher le thon au large des Côtes d'Armor.
Joanne Moison de France Bleu Armorique.
Pas sûr que Hemingway ait pêché du 121 kilos quand même. Merci Laurence Thomas pour ce journal. Le zoom dans une poignée de minutes. Cette semaine, à 8 mois de la présidentielle, un état des lieux de la France. Et ce matin, Rix, la nouvelle mécanique.